occupante. Oui. Vous fasciste.
Oui. Vous êtes venu dans notre pays. Pourquoi vous êtes venu avec des armes? Prenez ces graines avec vous, que des tournesols poussent quand vous mourrez ici.
Discuter ne changera rien. N'empirons pas les choses. S'il vous plaît.
Comment ça pourrait être pire?
N'empirons pas les choses.
Mettez ces graines dans vos poches, vous allez mourir ici avec.
La guerre en Ukraine nous conduit aujourd'hui à modifier la forme de votre magazine de reportage. Depuis 11 jours, sur le terrain, les reporters de Radio France vous font vivre quasiment heure par heure ce que les autorités russes appellent toujours une opération spéciale. Ce matin, on va remonter le temps et faire avec eux le récit de ces 11 journées qui vont bouleverser le cours de l'histoire. L'idéal de paix issu de la Seconde Guerre mondiale a volé en éclats sous la pression de Vladimir Poutine. L'Europe sera à coup sûr différente quand les fumées des bombardements se seront dissipées.
Notre Europe, dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie.
Nous serons notamment ce matin avec les Ukrainiens qui restent sous les bombes, animés par un esprit de résistance qui force le respect et qu'exalte leur président, Volodymyr Zelensky, devenu une icône.
Nous avons prouvé notre force. Prouvez donc que vous êtes avec nous. Alors la vie l'emportera sur la mort et la lumière sur les ténèbres.
L'Ukraine, ses matières premières et sa très productive agriculture est depuis longtemps une cible pour le pouvoir russe. D'où les craintes occidentales de hausse des prix des produits alimentaires de base. En vérité, depuis son indépendance en 1991, l'ex-république soviétique regarde plus vers l'ouest que vers l'ancienne puissance tutélaire. Elle se rapproche de l'Union européenne et même de l'OTAN. Vladimir Poutine redoute ces rapprochements qui feraient, selon lui, courir un risque à la Russie. Il saisit donc tous les prétextes, notamment la présence d'une importante communauté russophone à l'est du pays, pour les dénoncer. En mars 2014, la Russie annexe la Crimée, péninsule ukrainienne. Depuis, un conflit larvé oppose les deux pays, jusqu'à cette déclaration de guerre de Vladimir Poutine, le 24 février, à l'aube.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force.
Quelques dizaines de minutes plus tard, les premières bombes s'abattaient sur l'Ukraine.
La panique s'empare de l'Ukraine avec des embouteillages monstres autour des grandes villes, des files d'attente impressionnantes devant les distributeurs de billets. Avec en fond sonore ces sirènes qui annoncent le feu venu du ciel, une pagaille monstrueuse à la hauteur de la sidération des Ukrainiens qui depuis ce matin sont en guerre. La guerre aux portes de l'Union européenne, avec en première ligne les habitants des grandes villes réveillés ce matin comme Andri par les multiples explosions. Il était 5h du matin, dit-il. Il s'est levé 15 minutes avant d'avoir entendu une explosion. Et puis encore 3, 4 explosions. Il savait, dit-il, que Poutine était fou, mais il ne se doutait pas que c'était un putain d'idiot, dit-il.
Je me suis réveillée à 5h du matin parce qu'il y avait des bombes. Je ne pouvais pas imaginer cette situation. Chaque personne a parlé de ça, mais personne ne croyait pas.
Quand vous avez entendu les bombes, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Je me suis réveillée et comme, je ne sais pas, peut-être 30 minutes, j'ai fait mes valises et nous avons quitté la ville.
Je viens d'Alep et nous avons connu la guerre, la grande guerre. C'est pour ça que nous sommes venus en Ukraine. Mais c'est de nouveau la guerre et nous devons encore une fois fuir pour trouver un endroit en sécurité.
Vous allez où du coup ? Vous allez où ?
Pologne.
Pologne.
La Pologne.
Mon ami et moi, on était préparés à ça. Nous savons qui est Poutine. Nous connaissons la Russie. Ces deux dernières semaines, nous avons lu des choses horribles sur les réseaux sociaux russes. Et ce sont des appels au meurtre. C'est un pays sinistre. Ces gens ne connaissent absolument pas la réalité. Ils vivent dans un autre monde. Qui est Poutine ? C'est un tueur. Un agresseur, vraiment.
Absolument.
Encore une fois, je m'adresse aux forces armées ukrainiennes. Ne laissez pas les néo-nazis utiliser vos enfants, vos épouses et vos parents âgés comme des boucliers humains. Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il sera plus facile de négocier entre vous et moi qu'avec cette clique de toxicomanes et de néo-nazis qui s'est installée à Kiev et a pris en otage le peuple ukrainien.
Cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser.
Allocution d'Emmanuel Macron.
Une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme.
L'Occident, à l'instar d'Emmanuel Macron, qui continue à parler à tous les belligérants, peut bien dénoncer les mensonges du maître du Kremlin. Les Ukrainiens, en ce deuxième jour, quittent le pays par milliers. Ils sont poussés vers l'ouest par l'inquiétude. Mais on commence à percevoir aussi chez eux une volonté de s'opposer à l'invasion.
Sergui ne lâche pas son téléphone.
Je prends des nouvelles de mon épouse.
Et la discussion tourne autour de leur fils engagé dans l'armée depuis peu et qui devrait donc se battre dans les prochains jours.
Comme il est soldat, il nous transmet des informations et quand il nous dira qu'il faut que l'on s'en aille, on l'écoutera. J'ai fait le plein d'essence, j'ai des jerrycans. Et donc, quand il nous le dira, nous partirons.
Et comme toutes les familles qui ont pris la route hier, l'objectif, c'est de quitter l'Est au plus vite.
On attend encore de voir exactement, mais oui, il faut aller dans cette direction, vers la Pologne, vive vers l'ouest du pays.
Vous avez peur des Russes ?
Ce n'est pas la question. Les Russes sont comme nous. Moi aussi, je parle le russe. Non, j'ai peur des armes et des échanges de tirs. Ça n'est pas la même chose.
Sergui pourrait donc rejoindre les 100 000 Ukrainiens qui ont fui leur région ou les milliers d'autres à l'étranger.
Yulia a les yeux de celle qui n'a pas dormi depuis 3 jours, énième évacuation dans le sous-sol de l'hôtel où elle séjourne à Lviv. Elle est ici par hasard, perdue à 700 km de sa famille. Elle venait ici pour un séminaire avec ses collègues.
On ne comprend pas pourquoi les Russes nous bombardent, pourquoi ils envahissent l'Ukraine, pourquoi ils s'acharnent. Il y a des morts côté Ukraine et côté russe, alors qu'ils arrêtent cette guerre.
Yulia passe ses jours et ses nuits avec 3 de ses collègues, apeurées elles aussi à l'idée de traverser le pays. En attendant, Yulia reste à Lviv, la grande ville de l'Ouest.
Je pourrais peut-être rejoindre la défense territoriale comme bénévole, ou peut-être cuisiner quelque chose pour nos soldats ou nos volontaires. L'essentiel, c'est d'aider les gens qui défendent notre pays. Je suis même prête à prendre les armes s'il le faut.
La ville de Lviv se prépare elle aussi à une poussée des forces russes. À la sortie, des volontaires sont en train de préparer des sacs de sable, des blocs de béton, pour bloquer l'accès principal à la ville.
Allocution du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Nous distribuons et distribuerons des armes à toutes celles et ceux qui veulent défendre notre pays et sa souveraineté. L'avenir de l'Ukraine dépend de chaque citoyen.
Kalachnikov ?
Yes.
Alex déambule une Kalachnikov en bandoulière au milieu des rayons de ce supermarché. Il se dit prêts à affronter les soldats russes dans les rues de Kiev.
Si on ne prend pas les armes, il y aura massacre, une montagne de cadavres.
Plus de 10 000 fusils automatiques ont été distribués aux civils en quelques heures. Sergueï devra attendre un peu car les centres de distribution ont été pris d'assaut.
Toutes les armes ont été distribuées. On nous a conseillé de rentrer chez nous et de revenir demain matin à
9h. C'est pour défendre son quartier dans le nord de Kiev que Stanislav, 35 ans, a décidé de s'engager. La menace se rapproche. Les soldats russes sont à une vingtaine de kilomètres de chez lui.
Il y a beaucoup de gens qui sont restés vivre ici, donc il faut les protéger. Il ne s'agit pas seulement de protéger des immeubles ou des habitations, mais surtout des personnes.
Depuis le début de l'offensive, la résistance s'organise et s'appuie sur une jeunesse déterminée à défendre la capitale à n'importe quel prix.
La capitale ukrainienne sur le pied de guerre.
Nous ne voulons pas cette guerre. L'Ukraine n'a jamais commencé aucune guerre. Tout ce que nous voulons, c'est que les Russes s'en aillent de chez nous. Nous voulons vivre en paix, mais quand quelqu'un vous attaque, vous voulez partir ou vous battre.
That's what we have. This, and we Ukrainians choose to fight.
Les Ukrainiens choisissent de se battre. Nous sommes courageux, nous sommes unis, peut-être comme jamais auparavant.
Partout dans le pays, même dans l'ouest, entre Kiev et la frontière polonaise, la résistance s'organise. En ce troisième jour de guerre, les habitants qui n'ont pas pris la route se préparent à des conditions de vie plus difficiles de jour en jour. Ils se préparent aussi, avec les moyens du bord, à résister coûte que coûte à l'envahisseur.
La nuit froide est tombée, des hommes, et même de rares femmes plutôt âgées d'ailleurs, sont en train de monter des sacs de sable les uns sur les autres. Ils sont en train de construire, en pleine nuit, un abri pour leurs soldats. Sur le côté, des pelleteuses creusent le sol pour y monter leur baraquement. L'ouest du pays se prépare. C'est aujourd'hui la seule partie du territoire sans forces russes. Mais les moyens paraissent aussi minuscules que la volonté de résister est farouche. Sur la route, on s'étonne de voir les panneaux indicateurs complètement recouverts, comme si cela suffisait à perturber une armée aussi puissante. Les derniers kilomètres avant Kiev sont eux plus intensément surveillés. 7 barrages en 20 kilomètres. Parfois l'armée, souvent des volontaires de la défense territoriale, nerveux quand les voitures arrivent trop vite ou s'arrêtent trop tard. C'est le maillon indispensable pour filtrer les entrées dans cette capitale résistante et empêcher des miliciens pro-russes de pénétrer dans Kiev et y mener des opérations de sabotage.
En ce moment, c'est exactement ce que tous les Ukrainiens disent aux Russes. Allez vous faire voir. Laissez-nous tranquilles. Nous sommes imbattables. Je suis sûr de cela en raison du nombre de personnes qui se sont engagées dans les unités de défense territoriale et qui sont devenues une partie de l'armée ukrainienne qui bat toutes les unités de l'armée russe qui est mal entraînée. L'Ukraine est le meilleur pays du monde. Gloire à l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Toute la nuit et pour la troisième fois consécutive, il y a eu des bombardements que nous avons pu entendre de l'hôtel où nous nous trouvons. Selon des images prises par des habitants de la capitale, des sources fiables dont nous avons pu authentifier le témoignage, un immeuble d'habitation d'une trentaine d'étages situé dans l'ouest, à côté de l'aéroport Sikorsky, a été touché par un tir de missile. Par ailleurs, il y a eu des combats au sol ces dernières heures sur l'avenue de la Victoire, une grande avenue qui traverse la capitale horizontalement. Vous l'imaginez, dans ces conditions, les habitants, ceux qui sont restés, ont passé la nuit dans des abris, les métros notamment. La capitale ukrainienne est désormais quasiment une ville fantôme. Pour rentrer dans cette ville, nous l'avons constaté cette nuit, il y a des points de passage un peu partout avec des hommes armés, parmi eux de nombreux civils, des pères de famille qui vivaient en paix il y a encore quelques jours et qui sont désormais volontaires pour tenter de sauver leur pays face à l'invasion russe.
Bienvenue.
de Buena Vista.
Depuis que Max a mis une annonce sur les réseaux sociaux pour dire que son bar disposait d'un abri anti-bombe, chaque nuit, une vingtaine de personnes viennent s'y réfugier.
C'est le meilleur abri de la ville, car c'est un abri moderne. Ce n'est pas comme celui du métro. Ce n'est pas le vieil abri soviétique sans toilettes, poussiéreux. Mon objectif, c'est de créer une atmosphère de la vie de tous les jours.
Et c'est exactement ce que l'on ressent, cette illusion de normalité, alors que la ville est sous le feu des bombardements. Svetlana a aménagé un des recoins du sous-sol.
À la maison, on a de grandes baies vitrées. On a peur qu'elles soient soufflées par l'explosion d'une roquette. Si on a choisi cet endroit au lieu d'aller dans un abri officiel, c'est parce que dans le métro, par exemple, c'est bondé. Il y a beaucoup trop de monde. Et puis le métro est loin d'ici. Ce n'est pas pratique lorsque la sirène retentit.
Sviatoslav, son fils de 6 ans, joue au milieu des adultes et sous le regard du papa Raman.
On essaie de lui expliquer pourquoi les sirènes retentissent, mais il est un peu trop jeune, donc on essaie de le protéger, de ne pas parler de ce qui se passe. Mais il s'est bien adapté à l'endroit, donc ça va.
Rivés à leur téléphone, tous guettent les dernières informations et espèrent retrouver au plus vite une vie normale.
Les espoirs de retour à une vie normale sont pourtant rapidement douchés. 4 jours après avoir lancé son attaque, Vladimir Poutine franchit un nouveau pas vers l'irréversible. Alors que des pourparlers russo-ukrainiens sont organisés à la frontière Bélarusse, il agite rien de moins que la menace nucléaire.
Chers collègues, vous voyez que les pays occidentaux n'ont pas seulement des actions d'inamitié contre notre pays dans le domaine économique. Et je parle là de sanctions illégitimes qui sont bien connues, mais aussi des personnes haut placées de l'OTAN qui prononcent des déclarations agressives contre notre pays. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
Vladimir Poutine met donc en péril ce qu'on appelait au temps de la guerre froide l'équilibre de la terreur. Ces déclarations ont suscité une intense agitation diplomatique internationale et même des interrogations à peine voilées sur sa santé mentale. Le lendemain à Kiev, où les habitants peu à peu s'installent dans une sorte de routine de la vie en alerte, la menace nucléaire ne semble pas avoir ajouté de l'effroi à la peur quotidienne. Quant à la combativité des Ukrainiens, elle reste intacte.
D'abord, le silence. Silence assourdissant d'une capitale de près de 3 millions d'habitants, entrecoupée nuit et jour par deux sons, les explosions et les tirs, ainsi que les sirènes anti-aériennes devenues les quotidiens de ces habitants qui vivaient en paix la semaine dernière. Anna a 29 ans.
En fait, je découvre que l'être humain s'adapte à tout, aux sirènes, aux explosions, aux tirs. C'est terrible à dire, mais on commence à s'y habituer. Au fond de mon cœur, j'aimerais tellement que les soldats russes retournent chez eux pour retrouver une vie normale et heureuse.
Anna s'y habitue tellement à ces sons qu'elle associe désormais des mouvements de meubles, des claquements de portes aux explosions. La violence est en fait quasi continue, d'autant que la menace nucléaire est désormais brandie. J'ai donc demandé à Alexei, ancien policier qui gère la sécurité de l'hôtel, s'il craignait cette menace.
Bien sûr que l'arme nucléaire nous effraie, mais je pense que l'entourage de Poutine, qui a aussi une influence sur cette décision, ne lui donnera pas cette possibilité. Je pense que ces personnes sont un peu moins folles que lui.
Passé la stupéfaction, les Ukrainiens se sont mis à l'action. Le ton est plus belliqueux, voir un ennemi humilié comme dans cette vidéo qu'il me montre d'un soldat russe qui doit répéter « gloire à l'Ukraine ». C'est un peu de fierté retrouvée.
Là, vous venez acheter quoi ?
Je viens acheter de l'huile pour moteur pour faire des cocktails de Molotov.
Chaque soir, Nicolas fait ses courses dans cette station-service près de chez lui, réservée habituellement à l'armée ukrainienne.
On veut combattre, Et on veut démontrer aussi aux Russes que l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Notre liberté, ce n'est pas seulement les mots, c'est l'âme de la nation.
Cet artiste de 32 ans se prépare avec ses amis à défendre sa ville de Kiev avec cette arme incendiaire artisanale qu'il réserve aux forces russes. Combien de cocktails Molotov vous faites par jour ?
On peut faire centaines. Et les cocktails de Molotov, c'est très simple, mais très efficace. Oui.
Nicolas est un opposant de longue date à Vladimir Poutine, qu'il n'hésite pas à comparer au pire dictateur.
Il y a deux personnes qui ont bombardé Kiev, c'est Hitler et Poutine. Et même Poutine et Hitler bombardé Kiev à 4h du matin. L'histoire se répète, c'est quelque chose fou. Je vais résister contre les occupants.
Et une résistance à coups de cocktail Molotov, l'arme du pauvre, symbole de la lutte de tout un peuple.
Le président Volodymyr Zelensky continue à s'afficher en chef de guerre patriote, déterminé à rester chef des armées jusqu'à la fin de cette crise. Mais il réitère aussi ses appels à l'aide dans une adresse désespérée aux parlementaires européens qui lui répondront par une très longue standing ovation.
Pouvez-vous imaginer que deux missiles de croisière ont frappé la place de la Liberté, faisant des dizaines de victimes ? C'est le prix de la liberté. L'interprète du Parlement avait lui aussi du mal à cacher son émotion.
We are fighting just for our land and for our freedom.
Une émotion partagée dans l'hémicycle quand le président ukrainien a demandé l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Nous avons prouvé notre force. Prouvez donc que vous êtes avec nous. Alors la vie l'emportera sur la mort et la lumière sur les ténèbres.
Чому мені сниться, як знову і знову гуляємо з тобою по рідному Львову. Там пахне весною і сонце сідає на березі річки, якої немає.
І дивляться леви на тебе ласкаво і варять бажання із запахом кави. І вільно на розі між пеклом і раєм. У Львові так просто своє не вмирає. Тихай місто весни моє. Місто весни моє.
Huitième jour de guerre, les troupes du Kremlin ont intensifié leurs frappes sur l'Ukraine. Dans le sud, elles ont conquis leur première grande ville stratégique, Kherson. Plus à l'est, Mariupol, autre cité portuaire clé, résiste selon l'armée ukrainienne. Mais la pression s'accroît. Le maire accuse la Russie de vouloir assiéger sa ville. Plus au nord, la deuxième ville du pays, Kharkiv, reste la cible de bombardements meurtriers. À Tchernigiv, située sur une des routes menant à la capitale Kiev, les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir frappé une zone résidentielle faisant 33 morts. Des vidéos amateurs montrent aussi la résistance des habitants. Des civils défiaient ce mercredi les militaires russes.
Якому ніяк не згасаю ті сни, у яких я і знову місто весни.
Compte tenu du déséquilibre des forces en présence, on s'attendait à une guerre éclair. Or, la résistance inattendue de cette nation surprend le monde entier et prolonge le conflit. En attendant l'aide promise par la diplomatie internationale, les Ukrainiens sont bien forcés de s'adapter. Dans Kiev, désormais comme assiégé, la vie se concentre désormais dans les lieux les plus sécurisés, les sous-sols de la capitale. Volontaires et militaires continuent leurs préparatifs en vue d'un assaut massif annoncé depuis plusieurs jours. Et pour les personnels de santé aussi, c'est la mobilisation. Dans les caves d'un hôpital spécialisé en maladies cardiaques, les soignants, tout en continuant à s'occuper de leurs patients, se préparent à exercer une médecine de guerre. Vanessa Descoureaux et Marc Garvenès arrivent dans les sous-sols de cet établissement.
France Inter, Interception.
Alors, on est donc dans la pièce qui est réservée aux enfants qui ont eu des opérations cardiaques ces derniers temps. Alors, il y a un tout petit, le plus petit a 3 ans, donc il y a 5 enfants dans la pièce. Ils sont très sages d'ailleurs.
Je travaille ici. Je suis chirurgien cardiaque en pédiatrie. Voici nos patients après leur intervention chirurgicale. Nous avons tous les équipements, tous les médicaments dans ce centre hospitalier. Et pour le moment, nous n'avons aucun problème de médicaments. Les patients ont tout ce dont ils ont besoin. Mais je ne sais pas ce qui se passera dans les prochains jours.
Vos patients reçoivent les mêmes traitements ici, dans sous-sol, que s'ils étaient traités dans des chambres normales, on va dire ?
Oui, nous avions même beaucoup plus de patients ici les tout premiers jours. 4 patients ont été renvoyés à la maison et nous assurons leur surveillance à distance, par téléphone, tous les jours, 24 heures sur 24. Nous ne dormons pas, nous sommes de garde.
Vous attendez à une longue guerre ?
C'est une question difficile. J'ai vécu une expérience similaire quand j'étais à Tbilissi, en Géorgie, en 2008. Oui, de Géorgie, Tbilissi. Mais je travaille ici, donc je suis aussi ukrainien, parce que je suis ici depuis 12 ans maintenant. Les enfants ne devraient pas avoir à souffrir d'une agression militaire. Ils devraient être à la maison en ce moment, ou étudier à l'école, ou faire leurs devoirs, et rien d'autre. Je n'aurais jamais cru qu'une telle agression aurait pu avoir lieu ici, en Ukraine ou contre d'autres pays. C'est très dur.
Nous sommes avec Loda, qui est la maman d'Angela. Alors, Angela a eu des problèmes cardiaques très tôt dans sa vie, puisque sa première opération cardiaque, elle avait 3 jours seulement. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette cave ?
Nous sommes dans cette cave depuis le premier jour de la guerre. C'est un endroit sûr et je me sens en sécurité. Avant, ma fille était hospitalisée au 5e étage. Et là-bas, c'était effrayant parce qu'on entendait les bombardements, les sirènes, tous ces bruits si forts. Là-haut, c'était angoissant.
Et puis du coup, pour la santé d'Angela, tout est sous contrôle ici, elle est surveillée ?
Oui, avec ma fille ici, on est en sécurité. Sa situation n'est pas encore stabilisée. Elle doit être surveillée en permanence par ses médecins. Notre maison est située de l'autre côté de la rivière. Les routes, les ponts ont été démolis. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, peut-être même plus de maison, on ne sait pas. Notre famille nous manque tellement. Les enfants, mon mari qui s'est engagé comme volontaire, ils ne sont pas là avec nous. Mon mari a pris les armes. Parce que chez nous, c'est terrifiant. Là-bas, c'est l'enfer. Mais j'espère qu'on va se retrouver tous ensemble très bientôt, que tout ira bien. Mon mari combat à 10 km de Borodyanka. Avant de prendre les armes, il a emmené nos enfants loin de là et en dehors de cette région. Mais là-bas aussi, c'est devenu dangereux par la suite.
Il y a Bob l'éponge qui est diffusé à la télé. Éternel et universel Bob l'éponge. On va laisser... regardez la fin de l'épisode. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Bye.
Au même moment, des milliers d'autres civils, essentiellement des femmes et des enfants, continuent de fuir les combats. Plus d'un million d'Ukrainiens ont déjà trouvé refuge dans les pays voisins. Selon l'ONU, ce chiffre pourrait monter à 4 millions dans les semaines à venir.
Là, on est à l'étage des chambres. Puisqu'il y a encore des hospitalisations en cours, dans des conditions évidemment compliquées. On est avec le docteur Glib Yemets qui nous fait visiter ces chambres où sont encore hospitalisés les patients. Il nous a expliqué qu'il était mobilisé depuis le premier jour, comme à peu près tout le personnel de l'hôpital. Hop, on y va. Il n'y a pas de lumière dans le couloir.
Cette patiente a été opérée avant la guerre, mais elle a fait une attaque après l'opération. Elle était incapable de bouger correctement et on ne pouvait pas la transférer où que ce soit. Alors on doit être là, avec nos patients. Et tout ira bien.
On remarque qu'il y a beaucoup de scotch sur les fenêtres. Expliquez-nous.
C'est assez drôle. On voulait simplement protéger les fenêtres contre l'explosion d'une roquette et l'onde qu'elle provoque. C'est pour éviter que cela ne brise la vitre de la fenêtre. Mais en réalité, ça ne sert à rien. On a juste essayé ça le premier jour, car on avait peur, donc on a tenté quelque chose pour protéger ce qu'on pouvait. Mais maintenant que l'on s'habitue à cette terrible situation, quand on entend que quelque chose risque d'exploser, on prend les patients et on les transporte au sous-sol.
Docteur Sergueï Lobovkin, vous êtes ici médecin dans le bloc réservé aux soins intensifs. Vous vous sentez en sécurité ici ou vous dites qu'un jour les Russes seraient capables de bombarder un hôpital ici à Kiev ?
Je me sens en sécurité ici parce que ce bâtiment est de construction militaire. En plus, il y a 10 ans, il a été rénové. Donc je pense qu'il peut nous sauver. Nous sommes tous ensemble ici et on prend soin de tout le personnel.
Vous vous sentez plus en sécurité ici qu'à la maison ?
Oui. Je me sens en sécurité dans mon hôpital parce que je travaille avec ma femme. On est là, ensemble. Nous avons une petite fille qui est en Allemagne avec sa grand-mère. Je les ai emmenés il y a une semaine.
Vladimir Poutine reste déterminé à poursuivre l'offensive en Ukraine. Le président russe a affirmé que tout se passait selon le plan.
Nous attendons, mais nous espérons que cela n'arrive jamais. Des soldats blessés au combat, nous avons 2 équipes chirurgicales et tout ce qu'il faut. Il faut souhaiter que cela n'arrive jamais, mais nous sommes prêts. Le ministère de la Santé est venu à nous il y a 2 jours. On leur a dit que nous avions 14 lits de soins intensifs. Nous avons tout le personnel formé nécessaire. Donc s'il y a une bataille à 7-10 km à la ronde, il faudra les amener. Plus les blessures graves sont soignées rapidement, plus le soldat est amené vite à l'hôpital, plus il a de chances de survivre. Donc en cas de bataille dans un périmètre de 10 km, on les soignera ici. Nous sommes prêts à aider. Les premiers jours, nous avions vraiment peur, mais maintenant, on sait s'adapter. Nous sommes médecins et nous devons aider nos soldats, nos patients. C'est notre métier, on doit le faire. Bien sûr, si le bâtiment est détruit et si nous étions dans l'impossibilité d'aider, ce ne serait pas nécessaire de venir ici parce qu'on serait inutile. Mais là, nous en sommes capables, nous sommes prêts et nous le serons jusqu'à la fin de ce désastre.
Ось твій район без початку кінця, лиця серця і робочі місця, твої антени і метрополітени, окремі частини єдиної системи, твої кордони та береги, твої вороги і твої борги, всі капітали, робочі квартали, ти про що тебе не питай.
Nous n'allons pas occuper ce pays, mais l'objectif est très clair.
Gennady Katilov, ambassadeur de Russie à l'ONU.
Lorsque nous aurons dénazifié et démilitarisé l'Ukraine, nos troupes se retireront. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Les troupes russes ont attaqué la centrale nucléaire de Zaporijjia.
Volodymyr Zelensky.
La plus grande d'Europe. À elle seule, elle pourrait être comme si Tchernobyl. Les tanks russes savaient sur quoi ils tiraient en visant directement la centrale. C'est une terreur d'un niveau sans précédent.
We are gravely concerned. Linda Thomas-Greenfeld, ambassadrice des États-Unis à l'ONU.
L'attaque russe de la nuit dernière fait courir un risque grave à la plus grande centrale nucléaire d'Europe. C'était incroyablement imprudent et dangereux. Cela a menacé la sécurité des civils en Russie, en Ukraine et en Europe.
À l'aube du 9e jour de guerre, les chars russes font feu sur la centrale nucléaire de Zaporijjia. Les autorités russes évoquent plutôt l'action de saboteurs ukrainiens. C'est la plus vaste centrale d'Europe. Un incendie se déclare qui fait craindre pendant quelques heures une catastrophe majeure. L'effroi se répand dans tout le pays. Omar Waman et Gilles Gallinaro en ont recueilli quelques témoignages dans la capitale ukrainienne.
La nuit dernière, j'ai suivi la situation jusqu'à 4h du matin et je suis toujours très inquiet.
Pavlo, 42 ans, metteur en scène à Kiev. Comme de nombreux habitants de la capitale, l'annonce de l'attaque de la centrale de Zaporijjia l'a terrorisé.
Je n'ai pas de pastilles d'iode à la maison. Avec mes amis, on essaie de s'en procurer. Quand je suis arrivé à Kiev, je leur ai dit, que pourrions-nous faire en cas de menace nucléaire? Comment fuir? Comment se protéger? Car ça peut arriver.
La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 est dans toutes les mémoires. Larissa, une habitante du centre-ville, est sortie prendre l'air quelques minutes.
Ça aurait pu être une énorme catastrophe, pire que Tchernobyl. Tout le monde devrait avoir peur.
Il y a la peur de l'accident nucléaire, mais également de voir la Russie contrôler à terme l'ensemble de la production d'électricité de l'Ukraine, estime Vladimir.
Nous pourrions nous retrouver sans électricité, sans lumière ou sans chauffage. C'est une perspective qui m'effraie. Il va se servir de cette centrale nucléaire comme un moyen de pression pour pousser notre gouvernement à capituler.
Jour après jour, l'armée russe resserre l'étau sur son voisin ukrainien et réveille les pires cauchemars.
Au 10e jour de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe intensifie ses tirs sur les villes et accroît son emprise sur les régions du sud. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement réagi au refus de l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne. Le président ukrainien avait plaidé pour la mise en place de couloirs aériens afin de protéger le pays des frappes russes. Mais l'Alliance refuse de s'engager dans un conflit ouvert avec la Russie.
Nous avons clairement dit que nous n'interviendrons pas en Ukraine, ni au sol, ni dans l'espace aérien.
Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN.
Évidemment, le seul moyen de mettre en place une zone d'exclusion aérienne serait d'envoyer des avions de combat dans l'espace aérien ukrainien et imposer cette exclusion en tirant sur des appareils russes. Notre évaluation est que nous comprenons le désespoir, mais nous pensons que si nous agissons ainsi, nous pourrions nous retrouver dans une guerre totale en Europe qui impliquerait plus de pays.
Aujourd'hui, il y a eu un sommet de l'OTAN.
Volodymyr Zelensky.
Un sommet faible, un sommet confus, un sommet où il a été clair que tout le monde ne considère pas que la bataille pour la liberté de l'Europe est l'objectif numéro un. Le port stratégique de Mariupol, dans l'est de l'Ukraine, est sous blocus et subit des attaques impitoyables par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville. La prise par Moscou de cette ville de quelques 450 000 habitants située sur la mer d'Azov serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée qui ont déjà pris les ports clés de Berdyansk et Kherson et les troupes séparatistes russes dans le Donbass.
C'est l'enfer. Maintenant à Mariupol, c'est l'enfer total.
Et cet enfer, Diana, 42 ans, est parvenue à le fuir hier à la tombée de la nuit.
Les Russes ont bombardé toutes les infrastructures comme les centrales électriques. Donc il n'y a plus d'électricité dans la ville, il n'y a plus de chauffage. Il n'y a plus d'eau car toutes les stations de pompage sont à l'arrêt sans électricité. Et puis il n'y a pas de connexion, c'est-à-dire que depuis 5 jours, il n'y a pas d'internet. Vous êtes en fait coupés du monde.
Diana et son mari sont restés bloqués pendant 5 jours dans des conditions épouvantables.
Les services de la ville ont mis en place quelques points de distribution de pain ou d'eau potable, mais il faut faire la queue très longtemps. Les files sont extrêmement longues. Les gens font des feux dans leur jardin pour se réchauffer. chauffer. Il n'y a plus d'essence, donc les habitants qui ont une voiture conduisent très peu pour économiser du carburant. C'est très effrayant, spécialement la nuit, à cause des bombardements incessants.
Le cessez-le-feu annoncé par le ministère de la Défense russe est destiné à l'évacuation des civils. Mais pour Diana, il permettra également aux habitants de sortir de leur isolement.
Cet arrêt des bombardements va permettre à la ville de réparer l'électricité et d'être de nouveau connectée. On pourra parler avec nos familles et prendre des nouvelles de ceux que nous avons laissés derrière nous. Les gens vont pouvoir se rendre dans des endroits plus sûrs, plus sécurisés.
La bataille de Mariupol ne fait que commencer. Des milliers de combattants ukrainiens sont prêts à défendre leur ville jusqu'au bout.
Les bombardements se sont arrêtés un temps, mais ils ont vite repris de plus belle avec des tirs d'artillerie lourde et de mortiers sur Mariupol.
Sergei Orlov, maire adjoint de Mariupol.
Les gens étaient effrayés, mais ils ont quand même commencé à rejoindre les trois points de rassemblement pour monter dans les bus d'évacuation. Là, un autre problème s'est posé. Les Russes nous avaient garanti que la route vers Zaporijjia serait sécurisée, mais nous avons appris que ce n'était pas le cas, que ces combats violents avaient toujours lieu autour de cette route. C'est là qu'on a compris que les Russes ne nous avaient pas dit la vérité et qu'ils allaient continuer à détruire notre ville. Alors nous avons décidé de dire aux habitants de rentrer chez eux parce que les rues n'étaient vraiment pas sûres.
À l'opposé de Mariupol, au nord-ouest du pays, l'exode se poursuit en passant par Lviv, la grande ville la plus proche de la frontière polonaise, où se sont repliés de nombreux diplomates occidentaux, dont l'ambassadeur de France. La route qui vient de Kiev à 500 km de Lviv est encore encombrée de réfugiés fuyant les combats, comme le constatent Boris Loumagne et Laurent Macchietti.
Cette route vers l'ouest, c'est la route des réfugiés. Des kilomètres de bouchons au milieu des champs enneigés, à bord des voitures, des femmes, des enfants, quelques hommes qui font le voyage avant de repartir combattre. Sur la route également, de nombreux barrages filtrants, des hommes armés, parfois simplement avec des fusils de chasse. Ce sont les hommes de la défense territoriale, l'armée de réserve qui contrôle et qui surveille. Les quelques stations-service ouvertes sont prises d'assaut. Et puis dans les villages que les réfugiés traversent, les habitants se préparent. Sacs de sable, blocs de béton, des arbres qui ont été coupés et mis en travers des routes. Ces habitants attendent les Russes de pied ferme. Les Russes sont pourtant encore loin, mais à voir s'activer tous ces gens, on comprend qu'ils sont convaincus que les Russes finiront par arriver ici.
France Inter, Interception.
Camille Magnard de la rédaction internationale de Radio France est avec nous dans le studio d'Interception. Bonjour Camille.
Bonjour Philippe.
Camille, vous êtes notre vigie avec un œil sur toutes les informations qui nous parviennent. C'est déjà presque la fin de la matinée en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire de certain sur la situation sur le terrain ?
Eh bien, ça reste à peu près la même que ces derniers jours, hein, plutôt stable à Kiev où les combats dans les faubourgs nord-ouest et est de la ville se poursuivent, mais assez sporadiquement. À Kiev, c'est toujours l'attente d'un possible assaut russe et les Ukrainiens s'y préparent à y résister. Dans le gros des combats, il s'est poursuivi toute la nuit sur les villes plus au nord et à l'est de Tchernihiv, de Soumy et de Kharkiv, qui sont sous le feu russe depuis le début de la semaine, qui résistent là aussi, mais qui payent un tribut très lourd en termes de destruction et de mort. Et puis, l'autre front, c'est celui du sud. Les troupes russes parties de Crimée et des frontières russes remontent vers Kiev le long du fleuve Dniepr, mais elles intensifient l'offensive contre le port de Mariupol pour priver entièrement l'Ukraine de tout débouché sur la mer d'Azov et la mer Noire. Les troupes russes ont à nouveau hier aussi attaqué l'autre port stratégique de Mykolaïv sur la route d'Odessa qui semble être l'objectif de cette reconquête du littoral ukrainien au sud.
Oui, justement, on a beaucoup parlé de la résistance inattendue des Ukrainiens. Après avoir sans doute espéré une guerre éclair, Vladimir Poutine a dû revoir sa stratégie. Vers quoi est-ce qu'il semble s'orienter ?
Alors, c'est difficile à dire honnêtement, mais les mouvements de troupes de ces derniers jours semblent indiquer que les Russes retardent la bataille de Kiev en attendant donc les renforts qui remontent du sud et arrive du nord-est. Il y a l'idée de prendre la capitale en étau tout en faisant monter la pression sur les dirigeants ukrainiens, en multipliant les destructions, les pertes civiles, les prises stratégiques en chemin. On pense notamment à la centrale nucléaire de Zaporijjia conquise vendredi. L'idée étant de montrer aux alliés de l'Ukraine que la défaite ukrainienne est inéluctable à moyen terme, qu'il faudrait mieux en quelque sorte arrêter les frais tout de suite, trouver une issue rapide à la guerre avant qu'elle ne dégénère en conflit interminable à la syrienne.
Le ballet diplomatique reste dans le même temps incessant, avec notamment la mini-tournée hier du Premier ministre israélien Naftali Bennett. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose ou Poutine est-il simplement en train de gagner du temps ?
Et bien la question avec ces possibles négociations qu'elles viennent d'Israël, de Chine ou peut-être de Turquie, c'est ce qu'on met sur la table. Est-ce qu'il s'agit de pousser Vladimir Poutine à cesser les combats ? Mais alors avec quoi en échange, sachant que son armée est plutôt en bonne posture sur le terrain militaire ? Ou bien est-ce qu'il s'agit de pousser l'Ukraine de Zelensky à céder, d'accepter les conditions russes d'une démilitarisation et d'un statut de neutralité qui exclurait toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? La grande question, en fait, c'est à quel point Vladimir Poutine est fragilisé par les sanctions économiques contre son pays, apparemment pas énormément pour le moment, et jusqu'où il est prêt à pousser son avantage vers une partition du territoire ukrainien dont il annexerait une partie, ou bien s'il, comme il l'a laissé entendre, il veut conquérir tout le territoire ukrainien. Et là, il faut s'attendre à une très longue guerre de résistance des Ukrainiens.
Merci Camille Magnard. On vous retrouve évidemment toute la journée pour évoquer l'évolution de cette guerre à nos portes dans les rendez-vous d'information de France Inter. Les 11 jours qui ont fait basculer le monde, c'est un récit réalisé par Jérôme Chélius. Immense merci à lui. Il était assisté par Thomas Lehété. Le mixage était assuré par Defar Guéry, dans régie ce matin, Mathias Alléon et Loïc Marécchio. Sur le terrain, un grand salut confraternel à Vanessa Descoureaux, Valentin Dunat, Thibault Lefebvre, Gilles Gallinaro, Marc Garvenès, Arthur Gerbault, Boris Loumagne, Omar Ouaman, Laurent Macchetti et Jérémy Tuile. Prenez soin de vous les amis. Cette édition est disponible à la réécoute dès maintenant sur franceinter.fr.